Et voici immédiatement le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'heure du débat a sonné. Emmanuel Macron lance officiellement la grande concertation nationale en se rendant en Normandie aujourd'hui. L'exécutif et les députés déjà confrontés hier à des maires qui dénoncent un trop-plein de taxes et la disparition des services publics.
La pertinence de ce grand débat national en question, à quoi vont aboutir les discussions, que va retenir l'exécutif, question en suspens.
Et pendant que les Français sont appelés à débattre, le Royaume-Uni vote lui sur son avenir et son divorce d'avec Bruxelles aura-t-il lieu le 29 mars prochain, pas sûr, mais que pourrait-il alors se passer? Précision dans ce journal.
Et puis la question du jour dans une dizaine de minutes. Catherine, pourquoi Cesare Battisti est-il devenu une figure emblématique pour certains intellectuels? On posera la question au journaliste au Figaro Guillaume Perrault. Il a écrit un livre autour de Battisti, Génération Battisti.
Emmanuel Macron a donc choisi la Normandie pour lancer officiellement le grand débat national promis par l'exécutif pour répondre à la crise des gilets jaunes. Le chef de l'État se rend à Grand-Bourterouls d'une petite commune de l'Eure et il prendra la parole cet après-midi devant 600 élus normands. Des élus qu'Emmanuel Macron va surtout écouter selon l'Élysée. Également présent, le ministre chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, et la secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuel Wargon, chargés tous deux d'animer ce grand débat national. Il remplace au pied levé Chantal Joanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public, qui a jeté l'éponge la semaine dernière. Hier, Matignon a détaillé les modalités pratiques de cette concertation qui doit durer 2 mois jusqu'au 15 mars prochain. Détail avec Anne Fauquemberg.
Le décret devrait paraître au journal officiel dans la journée et ce sera donc le coup d'envoi pour la mission du grand débat national. Débat ouvert à tous, qui se veut foisonnant pour reprendre l'expression du Premier ministre. Édouard Philippe qui vient donc de donner les détails des outils mis à disposition des citoyens. Des réunions d'initiative locale tout d'abord, à l'initiative des maires qui le souhaitent, même si Emmanuel Macron multiplie les gestes d'encouragement en direction des élus locaux. Et puis à partir du 21 janvier, deuxième étape, rendez-vous est donné sur le site internet www.granddebat.fr, un site déjà ouvert qui permet de s'informer. Mais à partir de lundi, il y aura aussi un espace participatif, une sorte de grosse boîte à idées où les contributions des Français pourront être déposées. Troisième outil, les stands de proximité organisés à l'initiative des citoyens dans des lieux de passage quotidiens, précise Matignon. Et pour aider les organisateurs débutants, la plateforme internet met à disposition un guide pratique pour faire une bonne réunion et bien sûr les fiches de présentation des 4 thèmes définis par le président. Enfin, à partir du 1er mars, nouveau et dernier dispositif, les conférences citoyennes régionales avec un certain nombre de participants tirés au sort.
Et par ailleurs, 5 garants seront nommés ce vendredi, 5 personnalités qui devront veiller à l'indépendance des discussions. Mais qu'attendre précisément de ce grand débat national? À quoi va-t-il aboutir? À des réformes menées par l'exécutif? Romain Slitine en doute. Le politologue co-auteur du coup d'État citoyen, ces initiatives qui réinventent la démocratie, paru aux éditions La Découverte, forge son opinion sur l'observation pendant 2 ans d'une 100aine d'expériences démocratiques participatives menées dans le monde entier. Et au micro d'Anne Fauquemberg, il livre son analyse sur le grand débat national lancé aujourd'hui par Emmanuel Macron.
Le problème, c'est qu'il y a un grand flou sur les engagements pris par le président de la République. Il dit dans sa lettre aux Français « J'ai la volonté de tirer les conclusions des débats. On n'en sait pas plus. On n'a pas, en fait, un engagement ferme pour véritablement traduire en réformes concrètes les débats qui seront menés lors du grand débat national. » Ce qu'il faut, c'est aller au bout du processus et s'engager sur l'organisation d'un référendum, puisque finalement, ce grand débat national est arrivé par les citoyens qui ont demandé de prendre la parole de bout en bout. Et donc, si on ne va pas jusqu'au bout en proposant l'organisation d'un référendum qui peut être à questions multiples, et que ce référendum soit, dont les questions de ce référendum doivent être écrites, co-écrites par les citoyens directement. Et cela, c'est très simple à faire, entre guillemets, en organisant et en mettant en place une assemblée citoyenne qui va avoir l'autorité pour écrire les questions de ce référendum en prenant en compte la parole citoyenne de ce grand débat.
La parole citoyenne, ce sont les maires qui sont chargés en premier lieu par l'exécutif de la recueillir. Une 15aine d'élus de communes rurales ont déjà remis hier à l'Élysée les doléances exprimées ces dernières semaines dans les cahiers ouverts à cet effet dans leur mairie. D'autres élus se sont rendus à l'Assemblée nationale pour présenter aux députés leur cahier de doléances. Parmi eux, Thierry Barba, président de l'Association des maires ruraux de la Marne, une commune et également maire de Ville-en-Tardenois, une commune de près de 700 habitants située près de Reims.
Ce qui ressort le plus, c'est déjà les taxes. Ça, c'est clair que les gens, les taxes, je crois que tout le monde en a ras-le-bol. Nous, on avait déjà tiré le signal d'alarme il y a déjà au moins 2 ou 3 ans, en disant qu'à force de taxer les gens, il y allait certainement avoir des problèmes. Et effectivement, on a senti la tension monter. Donc les taxes, c'est vraiment quelque chose qui revient. Les services publics, on est sur des territoires en commune rurale. On nous ferme de plus en plus de services publics en disant qu'il faut faire des économies. Sauf qu'à force de tout fermer et de rapatrier tout le monde sur les villes, eh ben, les gens comme nous qui sommes à 15, 20 ou 30 kilomètres d'une ville, eh ben, on fait 15 ou 30 km pour avoir un service public. C'est vraiment un sujet important au niveau des gens. Quand vous fermez une poste en milieu rural, si vous n'avez rien aux alentours et qu'il faut faire 20 km pour aller voir chercher son courrier ou un recommandé ou quelque chose comme ça, ça ne peut pas être durable. Et à contrario, on nous parle d'écologie, et donc ça serait minimiser les déplacements et travailler plus en local. Et ce n'est pas ce qui se passe à l'heure actuelle.
Thierry Barba, président de l'Association des maires ruraux de la Marne, il répondait à Stanislas Vazac. La détérioration d'un service de proximité, une justice à deux vitesses, c'est ce que dénoncent une fois de plus aujourd'hui les avocats. Une centaine de barreaux appellent à débrayer partout en France, alors que les députés examinent en deuxième lecture la réforme de la justice de Nicole Belloubet, un texte que le Conseil représentatif des avocats souhaite voir discuté par tous les citoyens au sein du grand débat national.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Après 2 ans et demi de tergiversation, de spéculation au Royaume-Uni, les députés doivent dire s'ils valident ou non l'accord que Theresa May a négocié avec Bruxelles.
Et la première ministre britannique a tenté de défendre son texte hier face aux députés sans vraiment réussir à convaincre. Les pro-Brexit veulent toujours une rupture plus radicale avec les 27. Les anti-Brexit craignent, eux, une catastrophe économique. Résultat, l'accord de Londres et Bruxelles risque d'être rejeté ce soir. Peut-on imaginer un délai supplémentaire au-delà du 29 mars pour négocier la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne? Un scénario juridiquement possible si les 27 États membres l'acceptent à l'Union. Unanimité. Et c'est là que cela se corse, Angélique Bouin.
Si Londres a juste besoin de quelques semaines de plus pour éviter une sortie sans accord redoutée ici, alors il n'y aura sans doute pas d'opposition. Mais tout dépend du vote de ce soir. Un rejet à une courte majorité pourrait permettre à Theresa May de revenir à Bruxelles, chercher des concessions et faire revoter les députés, confie une source européenne. Mais si le rejet est massif, alors à quoi bon lui donner encore du temps? L'autre hypothèse serait une demande de report pour organiser un nouveau référendum ou bien de nouvelles élections. Et là se pose la question des élections européennes fin mai. Les Britanniques n'ont pas prévu de voter. 100 députés peuvent-ils rester dans l'Union européenne? Juridiquement, non. Des experts juridiques ont bien planché sur la question. Pourrait-on prolonger leur mandat, leur trouver un statut à part? À ce stade, aucune réponse et l'agacement pointe même chez certains interlocuteurs. La prochaine mandature doit permettre de relancer la construction européenne. Imaginez si l'on est encore en train de gérer le Brexit en juillet prochain, confie un diplomate. Dans des négociations stratégiques comme le futur budget de l'Union, explique de son côté un fonctionnaire, les Britanniques n'ouvrent plus la bouche depuis des mois, qu'il reste est pour beaucoup inimaginable. Un report sans une feuille de route politique construite n'aurait de toute façon aucun sens pour les 27 États membres et aucune chance donc d'être accepté.
Angélique Bouin à Bruxelles pour France Culture. La Pologne en état de choc après la mort du maire de Gdańsk poignardé dimanche soir par un homme lors d'un événement caritatif public. Des milliers de Polonais ont participé hier soir à des rassemblements contre la violence dans plusieurs villes du pays. L'agresseur, un habitant de Gdańsk de 27 ans qui venait de purger une longue peine de prison pour des attaques à main armée, a été mis en examen pour meurtre. Direction l'Irak à présent, où le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian termine aujourd'hui une visite de 2 jours. Il était hier à Bagdad puis à Erbil au Kurdistan irakien pour rassurer du soutien de la France après la décision de Donald Trump de retirer les troupes américaines de Syrie. L'Irak redevient un acteur majeur au Moyen-Orient malgré les nombreux défis encore à relever. Le reportage de notre envoyé spécial à Bagdad, Franck Matevon.
L'Irak reste un des rares pays où l'on se déplace parfois en véhicule blindé, comme ici à Bagdad. Mais la capitale est aujourd'hui beaucoup plus sûre. Le terrorisme est vaincu en Irak, même si la menace demeure. Le pays s'est doté d'un nouveau gouvernement. Il travaille à la réconciliation nationale, à la reconstruction après des années de guerre. Le ministre des Affaires étrangères souligne ici que son pays est aussi devenu très actif sur la scène diplomatique. Était présent hier en Irak le roi de Jordanie, le chef de la diplomatie iranienne, et donc le français Jean-Yves Le Drian.
Il y a eu la victoire militaire contre Daesh, la constitution d'un nouveau gouvernement, une affirmation retrouvée de la force de l'Irak dans la région. L'Irak est redevenu un pivot.
Pour la France, l'Irak est aujourd'hui une puissance d'équilibre au Moyen-Orient, un pays qui peut jouer un rôle dans la résolution du conflit syrien et qui peut servir de base arrière pour en finir avec Daesh après le retrait américain de Syrie, un retrait qui pourrait de toute façon, espère Paris, être très progressif. Mais l'Irak est confronté à de nombreux défis, renforcer bien sûr la sécurité, c'est essentiel, continuer à donner des gages aux minorités, kurdes, chrétiens, sunnites, ou encore offrir à une population meurtrie les services élémentaires, l'eau, l'électricité, un objectif encore lointain.
Franck Matvon, envoyé spécial de France Culture à Bagdad. La suite du procès de Medine Mouche à Bruxelles. Le djihadiste français est accusé d'être l'auteur de la fusillade du musée juif de Bruxelles en mai 2014, tuant 4 personnes. Aujourd'hui, le tribunal va interroger Medine Mouche, qui pourra compter sur son avocat sollicité par plusieurs détenus islamistes de Bruxelles. Il s'agit de l'avocat Sébastien Courtois. Son portrait avec Antoine Marette.
Les journalistes belges le surnomment parfois le Vergès des islamistes. Sébastien Courtois a fait de la défense des terroristes et des djihadistes une spécialité à laquelle il faut ajouter celle de personnalités antisémites. Parmi les clients de Maître Courtois, on compte un certain Dieudonné Mbala Mbala. L'avocat ne s'est pas contenté de défendre le polémiste controversé. En 2012, il est photographié avec l'un de ses collègues, co-défenseur de Medine Mouche, en train d'effectuer une quenelle avec Dieudonné Mbala Mbala, un geste anti-système considéré comme antisémite, ce qui vaudra aux deux avocats une suspension de 2 mois avec sursis par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Bruxelles, mais aussi une quenelle d'or censée récompenser la subversion. Sébastien Courtois se défend toutefois de tout antisémitisme. Il affirme vouloir juste défendre ceux qu'il est interdit de défendre. Mais il pourrait bien opter pour la thèse du complot dans la défense de Medine Mouche. Il a évoqué à l'issue de la première audience un piège tendu à son client pour commettre ce qu'il qualifie de pseudo-attentat. Et qui serait à l'origine de ce piège, selon la défense ? La réponse se trouve peut-être dans les démarches effectuées par les avocats de Medine Mouche. Selon Le Monde, Sébastien Courtois ainsi que Henri Laquet et Virginie Thielmann ont tenté en vain d'obtenir le témoignage de plusieurs personnalités israéliennes, dont d'anciens dirigeants du Mossad et des ambassadeurs.
Aux États-Unis, 25e jour de shutdown, de paralysie partielle des administrations et toujours pas de solution en vue. C'est le blocage le plus long de l'histoire du pays. En cause, le projet de mur à la frontière avec le Mexique voulu par Donald Trump, un mur que les démocrates refusent de financer. Le budget du gouvernement fédéral n'est donc pas voté. 800 000 fonctionnaires au chômage technique ou réquisitionnés mais sans être payés. Et en recevant des champions universitaires de football américain hier soir, Donald Trump a précisé que c'était bien lui qui offrait pizza et hamburger aux sportifs, lui avec son argent personnel à cause, dit-il, du shutdown. Le temps de ce mardi 15 janvier gris sur une grande partie du pays. Les températures sont comprises ce matin entre 0 et 6 degrés en général, avec des gelées localement à l'intérieur des terres, jusqu'à 9 degrés près de la Méditerranée.